propose de les poursuivre en continuant cette petite série que je vous propose sur le livre des Proverbes. Et vous vous souvenez peut-être qu'au mois de janvier, j'avais pris quelques versets du chapitre 10 des Proverbes. Et nous allons tout simplement continuer ce chapitre 10 avec les versets suivants. Alors oui, je ne t'ai pas dit peut-être qu'aussi, il y a un diaporama, mais peut-être que tu l'avais repéré, je ne sais pas. Excuse-moi de ce point technique. Un petit diaporama, parce que du coup le texte aussi biblique s'affichera, et il y a quelques diapos aussi au fil de la prédication. Et je vous rappelle qu'un des secrets, ce n'est pas un secret si je vais le dire, ce ne sera plus un secret, du livre des Proverbes dans la Bible, c'est qu'ils ne disent pas tout. Il y a quelques phrases qui sont des fois elliptiques, il manque, on a l'impression, des parties, parce que les formules sont courtes. Pour être percutantes, elles sous-entendent des fois certains mots. Et pour bien les comprendre, il faut donc mener une petite analyse du texte, une petite enquête, chercher des indices, peut-être qui nous permettent de reconstituer l'ensemble et de trouver les parties manquantes. Si on en reste à une lecture superficielle, bien des proverbes pourraient rester énigmatiques et on n'y trouverait pas le trésor qui s'y cache. Cela dit, il faut quand même toujours être très prudent. Je n'ai pas la prétention ce matin devant vous de venir compléter la parole de Dieu. C'est juste qu'il y a un effet littéraire dans le livre des Proverbes qui fait que des fois, on a l'impression qu'il manque quelques mots. Et ce que je vais vous proposer, ce n'est qu'une proposition, qu'une interprétation. Peut-être il pourrait y en avoir d'autres ici ou là. Et donc, je vous invite à la lecture de Proverbes chapitre 10, les versets 6 à 14. Donc d'abord les versets 6 à 10, ensuite 11 à 14. « Il y a des bénédictions sur la tête du juste, la violence couvre la bouche des méchants. Le souvenir du juste est une bénédiction, le nom des méchants tombe en pourriture. Le cœur sage accueille les préceptes, les lèvres imbéciles courent à leur perte. Celui qui suit la voie de l'intégrité marche en sécurité. Celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. L'œil qui cligne est une cause de peine. Les lèvres imbéciles courent à leur perte. La bouche du juste est une source de vie. La bouche des méchants couvre la violence. La haine éveille des querelles, l'amour couvre toutes les offenses. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Il y a un bâton pour le dos de celui qui est dépourvu de raison. Les sages tiennent la connaissance en réserve. La bouche de l'imbécile, c'est la ruine prochaine. » C'était la lecture dans la version de la Nouvelle Bible Second. Et je vous propose du coup d'y aller verset par verset. C'est bon, tu peux afficher. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. La violence couvre la bouche des méchants. Alors ici, nous avons d'un côté la tête du juste et de l'autre la bouche des méchants. Qu'en est-il de la tête des méchants? C'est une question qu'on pourrait se poser. Et ou de la bouche du juste? Il semble bien que là, on a aussi, tous les parallèles ne sont pas strictement exprimés dans ce verset. Et comment comprendre la deuxième partie de la maxime, la violence couvre la bouche des méchants? On la retrouve d'ailleurs à l'identique, je vous l'ai remis en dessous, au verset 11, la bouche du juste est une source de vie, la bouche des méchants couvre la violence. Mais vous avez vu que là, c'est un petit peu inversé. En réalité, la formule dans l'original, dans la Bible en hébreu, eh bien, c'est la même chose. Mais des fois, on ne sait pas ce qui est le sujet ou le complément d'objet direct. Puisqu'on peut mettre l'ordre des mots dans un ordre différent pour ceux qui ont fait un petit peu d'hébreu. Donc on peut traduire soit « la violence couvre la bouche des méchants », soit « la bouche des méchants couvre la violence ». On pourrait traduire des deux façons. Alors bien sûr, c'est pas, le sens ne serait pas le même. Si c'est la violence couvre la bouche des méchants, ça veut dire alors que les paroles des méchants sont pleines de violence, à tel point que la violence déborde de leur bouche jusqu'à la couvrir. Si c'est la bouche couvre la violence des méchants, alors ça veut dire que les paroles des méchants cachent une certaine violence, qu'une certaine violence est dissimulée derrière les paroles des méchants. La violence se cache derrière des paroles trompeuses. J'aurais tendance peut-être à préférer cette deuxième option qui semble mieux convenir à l'esprit des proverbes et surtout à cause du verset 12, mais ça on le verra tout à l'heure, qui contient le même verbe aussi, couvrir. On pourrait donc combiner les versets 6 et 11, hein, puisqu'ils contiennent cette même expression de couvrir la violence, et en prenant les deux versets ensemble, on pourrait du coup écrire cela: la bouche du juste est une source de vie, il y a des bénédictions sur sa tête, la bouche des méchants couvre, dans le sens dissimule, la violence, il y a des malédictions sur leur tête. Et les bénédictions et les malédictions dont il s'agit ici peuvent être comprises comme ce que les bénéficiaires du juste ou les victimes du méchant réclament pour eux, une forme de justice qui est réclamée, ou peut-être même comme le regard approbateur ou désapprobateur de Dieu lui-même. En tout cas, dans ces deux cas, dans tous les cas, ces deux maximes soulignent que nos paroles révèlent si nous sommes justes ou méchants. Et ça rejoint tout à fait l'Évangile avec ces paroles de Jésus qui dit que celui qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor que contient son cœur, celui qui est mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et vous verrez que cette notion de la parole, de la bouche, reviendra dans plusieurs de ces quelques versets. Proverbe 10, verset 7 maintenant. Le souvenir du juste est une bénédiction, le nom des méchants tombe en pourriture. Alors nous avons une opposition assez claire entre le juste et le méchant dans ce verset, entre le souvenir du juste et le nom des méchants. Ces deux mots désignent sans doute ici la même chose, c'est ce qui reste de nous après notre mort. Mais d'un côté, on a la bénédiction, et de l'autre côté, la pourriture, dans la Nouvelle Bible Second. Ce n'est pas exactement l'opposé, puisque ce serait sinon la malédiction, mais c'est évocateur. Ça ne veut pas dire que les méchants ne laissent pas d'empreinte dans l'histoire ou dans notre vie, mais leur souvenir est comparable à de la pourriture, on n'en tire rien de bon, alors que la trace des justes laisse, que les justes laissent, est une source de bénédiction. Les justes demeurent des sources de bénédiction, même après leur mort, par le souvenir inspirant qu'ils laissent. Et c'est vrai, on a eu l'occasion, il y a la semaine dernière, c'était les obsèques de Lucette, qui a laissé une empreinte positive, et même encore maintenant, après sa mort, son souvenir reste une bénédiction. Et on pourrait citer encore d'autres personnes, on pourrait citer Anna, on pourrait citer encore d'autres, et je ne voudrais pas en oublier, tous ceux qui ont marqué notre vie de façon positive, même s'ils ne sont plus là, ont laissé une marque qui encore aujourd'hui est une source de bénédiction. Proverbe 10, verset 8. Le cœur sage accueille les préceptes, les lèvres imbéciles courent à leur perte. Cette maxime est très courte et percutante. On a l'opposition entre le cœur sage et les lèvres imbéciles. Et littéralement, on pourrait traduire le sage de cœur et les imbéciles des lèvres. Il faut noter que ce n'est pas le cœur sage qui est opposé au cœur stupide, Mais c'est d'un côté le cœur, d'un côté, et les lèvres de l'autre. Intéressant. Le sage écoute et l'imbécile parle, pourrait dire ça presque. Ce qui est sous-entendu en tout cas, c'est ce qui attend les sages de cœur et ce que les imbéciles des lèvres font des préceptes ou des conseils qu'on leur donne. Et on pourrait donc écrire « Le cœur sage accueille les préceptes, il est promis à la vie. Les lèvres imbéciles n'écoutent pas les conseils, elles courent à leur perte. » C'est donc un proverbe qui nous invite à écouter plus qu'à parler. Alors, c'est facile, hein, vous l'avez déjà entendu, on a une bouche hein, et deux oreilles, c'est pour qu'on parle deux fois moins, pour qu'on écoute plutôt deux fois plus qu'on ne parle. Celui qui écoute sait qu'il a encore à apprendre et il en tire profit, mais celui qui parle tout le temps croit avoir tout compris, il croit tout savoir et il n'apprend plus rien, ce qui le conduit à sa perte. Proverbe 10, verset 9. Celui qui suit la voie de l'intégrité marche en sécurité. Celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. On peut mettre la diapo. Ici, j'ai l'impression qu'il ne manque pas grand-chose, que tout est dit. Quand on n'a rien à cacher, on peut être en paix. Mais ce qu'on cache finit un jour ou l'autre par être révélé. Voilà ce que dit ce proverbe. Or évidemment, comme dans tout le livre des proverbes, c'est un principe. Ça ne veut pas dire que dans la réalité, cela se réalise toujours. Il y a bien des personnes innocentes qui sont parfois condamnées injustement, et il y a bien des gens malhonnêtes qui ne se font jamais prendre. Mais ça reste vrai en tant que principe. Le chemin qu'emprunte celui qui est malhonnête est tortueux et source d'inquiétude. Il ne lui procure pas la paix. Il le conduit au mensonge, à l'hypocrisie, à l'insécurité. Et c'est ce que Jésus dénoncera aussi chez les pharisiens. « Prenez garde, leur dit-il à ses disciples, au levain des pharisiens, c'est-à-dire à leur hypocrisie. Tout ce qui est caché sera découvert et tout ce qui est secret sera connu. » Jésus affirme que ce ne sera pas forcément révélé ici-bas, mais le jour viendra où Dieu fera la lumière et rien ne restera dans l'ombre. Et je peux profiter aujourd'hui de cette parole pour me dire, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui sont cachées, que personne ne sait, mais Dieu le sait. Est-ce que je ne dois pas mettre quelque chose en règle aujourd'hui? C'est à chacun d'y répondre pour lui-même. Proverbe 10, verset 10. L'œil qui cligne est une cause de peine, les lèvres imbéciles courent à leur perte. On retrouve donc ici une formule qu'on a déjà vue précédemment, les lèvres imbéciles courent à leur perte. Mais ici, elle n'est pas opposée au cœur des sages, mais elle complète une autre formule, l'œil qui cligne est une cause de peine. Alors qu'est-ce que ça veut bien dire cela? Un peu plus tôt dans le livre des Proverbes, le fait de cligner de l'œil est associé à la conduite des personnes malfaisantes. Si je vous lis Proverbe 6, versets 12 à 14, « L'homme sans morale est un malfaisant, il marche, il a un langage tortueux à la bouche, il cligne de l'œil, parle avec le pied, fait des signes avec les doigts, la perversité est dans son cœur, il trame le mal en tout temps, il déchaîne des querelles. » Donc dans la description de l'homme sans morale, on a « il cligne de l'œil ». Certains y ont vu une pratique liée à des rites occultes, peut-être. Ce serait peut-être dans notre proverbe le regard moqueur de celui qui regarde les autres de haut, peut-être, qui pense qu'il a tout compris, qu'il n'a pas besoin de leurs conseils, comme on l'a vu juste avant. Il n'est pas impossible aussi que la deuxième partie de notre verset, « Les lèvres imbéciles courent à leur perte », soit une erreur de copiste, comme elle les présente deux fois. Une erreur de copiste qui serait intervenue assez tôt dans l'histoire de la transmission de la Bible, puisqu'à cet endroit-là, dans la version grecque de la Septante, qui date d'avant Jésus-Christ, on a une formule qui est complètement différente. C'est donc l'œil qui cligne est une cause de peine, ça c'est bon, et puis la suite, mais celui qui réprimande franchement procure la paix. Et ça pourrait très bien aller aussi hein, dans le style des proverbes, on n'aurait pas cette répétition. Donc peut-être qu'on a là quelque chose de plus ancien, plus authentique, qui était présent dans la parole inspirée à l'origine. Hein, vous savez que dans notre confession de foi, on a que la parole de Dieu est inspirée de Dieu et qu'elle est sans erreur, mais que lorsque nous confessons cela, elle n'est pas sans erreur de transmission. Il y a pu avoir ici ou là voilà, quelques erreurs de copiste. Ici, on en a peut-être une. Le copiste a lu juste au-dessus au moment où il recopiait. Le clin d'œil deviendrait peut-être alors dans ce cas-là le regard complice de celui qui ferme les yeux sur un comportement répréhensible. L'œil qui cligne, qui garde le silence alors qu'une parole franche serait préférable. Parce que le silence complice finit par produire de la souffrance alors que la parole franche finit par procurer la paix. Voilà, peut-être une lecture de ce verset. Et maintenant, je passe au verset 12, puisque le verset 11, on l'avait vu avec le premier verset. La haine éveille des querelles, l'amour couvre toutes les offenses. Vous voyez là encore ce verbe « couvrir » présent dans ce verset. Ici, l'opposition est claire entre la haine et l'amour. Et ce qu'elles produisent, la haine provoque des querelles, des divisions, de la violence, alors que l'amour procure la paix, permet la réconciliation, le pardon. La haine allume des incendies, l'amour éteint les flammes. Et on en trouve un écho dans l'hymne à l'amour de 1 Corinthiens 13. L'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout. Il endure tout. Proverbe 10, verset 13. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Il y a un bâton pour le dos de celui qui est dépourvu de raison. On retrouve ici une maxime qui ne dit pas tout explicitement. Elle parle des lèvres de l'homme intelligent et du dos de l'insensé qui reçoit un coup de bâton. C'est l'image d'une punition ou d'une sanction. Il manque la mention dans ce verset de la récompense pour l'homme intelligent et aussi les raisons de la punition de l'insensé. Et on pourrait donc ajouter quelques éléments et écrire cela. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Il aura sa récompense. Il y a un bâton pour le dos de celui qui est dépourvu de raison, car ses lèvres trahissent sa folie. C'est bien encore ici des paroles qui révèlent le cœur de chacun dont il est question, l'intelligent comme l'insensé, le juste comme le méchant. Leurs paroles révèlent le fond de leur cœur. Et verset 14, et puis après on en viendra à quelques applications. On pourrait prendre, hein, pour chaque verset finalement, les prendre pour soi et se dire, ben, on peut en profiter pour voir et s'examiner soi-même. Est-ce que mes paroles justement sont source de vie, hein? Les paroles du juste sont source de vie. Est-ce que autour de moi lorsque je parle, autour de nous lorsque nous parlons, ceux qui nous entendent pensent immédiatement à la vie que nous apportons par nos paroles. Nous concluons donc par Proverbe 10, verset 14, « Les sages tiennent la connaissance en réserve, la bouche de l'insensé, c'est la ruine prochaine. » Encore une fois, très classique, l'opposition entre les sages et les imbéciles. Les sages amassent de la connaissance. C'est cela, comme cela qu'il faut comprendre, hein, qu'ils tiennent la connaissance en réserve, non pas qu'ils font de la rétention d'informations, mais ils la tiennent en réserve parce qu'ils en amassent beaucoup. Et les imbéciles parlent. Les sages se retiennent, les imbéciles ne retiennent pas leur bouche. Et en fait, on est très proche de la maxime du verset 8. Le cœur sage accueille les préceptes, les lèvres imbéciles courent à leur perte. Les sages accueillent les préceptes, ils les amassent dans leur cœur. Cela leur fait une réserve de sagesse. Et les imbéciles ne retiennent rien. Par contre, ils parlent beaucoup. Quelques applications. Il est beaucoup question de bouche, des lèvres, pour désigner en réalité nos paroles. Tout ce qui sort de notre bouche, tout ce qui franchit le seuil de nos lèvres. Pourquoi une telle insistance dans ce petit passage sur les paroles ? Parce qu'elles peuvent avoir un impact immense, que ce soit en positif ou en négatif. On le dit souvent quand on médite l'épître de Jacques, qui nous met en garde contre la bouche qui peut être source de bénédiction et de malédiction. De la même bouche, nous pouvons bénir et nous pouvons maudire. Et il dit, mais ce n'est pas logique tout cela. Il utilise même cette image que d'une source d'eau ne peut pas sortir en même temps de l'eau pure, potable, et puis de l'eau salée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les paroles nous marquent. Une parole positive peut nous encourager énormément et une parole négative nous décourager fortement. Nos paroles sont révélatrices aussi de ce que nous avons dans notre cœur. Nos paroles nous trahissent nos faiblesses, trahissent nos manquements et surtout notre manque d'amour. Et voilà quelques pistes que ces quelques maximes peuvent nous donner quant à l'usage de notre parole. D'une manière générale, et c'était dit de plusieurs façons, le sage écoute et l'imbécile parle. Ça ne veut pas dire évidemment que le sage ne parle jamais, parce que sinon personne ne pourrait bénéficier de sa sagesse. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est rarement celui qui parle le plus qui est le plus sage. Savoir écouter, prêter attention à l'autre est une marque de sagesse qu'il faut cultiver. Première application, l'écoute. Deuxième, eh bien, quand le sage parle, il le fait à bon escient. Il fait preuve d'à-propos et de courage. Il ne va pas parler, le sage, pour s'écouter lui-même ou pour épater la galerie, mais pour être utile. Il vise le bien de l'autre. Et cela demande parfois du courage, parce que le sage est, dans certaines circonstances, il prend un risque dans certaines circonstances. Des fois, c'est plus facile de ne rien dire et de se taire. Ne pas parler ne serait pas non plus toujours une preuve de sagesse. C'est subtil. Parfois, il est nécessaire de parler, mais parler à bon escient. Et c'est cela la marque de la sagesse. Celui qui parle à bon escient avec des paroles qui ne sont pas nécessairement mirobolantes, mais utiles pour le bien de l'autre, le bien d'un groupe, etc. Les paroles du sage sont source de bénédiction. Elles édifient, elles encouragent, elles interpellent. Il s'agit donc toujours de s'interroger sur l'impact de nos paroles. Et si possible, avant de les avoir dites. Après, si on les a dites et qu'on les regrette, eh bien, on peut toujours dire « je le regrette, je m'excuse, je suis allé trop loin ». Et en fait, ce « aller trop loin », ça a révélé une faiblesse dans mon cœur, un manque de considération, un manque d'amour. Et alors, on peut demander pardon et s'excuser. Il est important d'examiner nos intentions. Pourquoi est-ce que j'ouvre la bouche? Pourquoi est-ce que je parle? Dans quel but? Avec quelle intention vais-je parler? Est-ce que tout d'un coup, je me mets en colère intérieurement? Est-ce qui va sortir, ça va justement être le fruit de cette émotion que je devrais peut-être apprendre à maîtriser, à canaliser et exprimer peut-être d'une bonne façon? Les intentions ont autant d'importance que les paroles elles-mêmes. Donc voilà, trois repères qui, j'espère, vont nous encourager à progresser aussi dans ce domaine. L'écoute, le sage écoute, le sage parle à bon escient, et les paroles du sage sont source de bénédiction. Voilà ces trois principes qui nous invitent à veiller autant sur notre cœur que sur nos lèvres. Prenons le temps d'y réfléchir. Amen.